Vous serez sûrement d'accord avec moi, les deux dernières semaines ont été tout sauf ennuyantes. Après des arcs-en-ciel, il y aura des étoiles et des éclairs pour la Coupe Stanley. Michael Kingsbury et Aurélie Rivard, honorés de leur salon, l'Impact nous fait voir rouge plus d'une fois et nous envoie au lit très contrariés. Allen Edmondson, ça nous donnera pas plus de buts, ça? Ron Fournier a pris sa retraite. Mais pour la prochaine heure, mes invités pis moi, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Yvan Deslauriers, Charles Dubébret, Marc-Antoine Ducharme, Alexandre Dupont, Mathieu Paiement et Aurélie Rivard. À la mise en onde, Mathieu Tessier et à la coordination, Louis Garon. Au cours de l'émission, nous parlerons du gala Sport Québec, les Harlem Globetrotters, la NBA, le sport à la télévision et l'équipement spécialisé de l'athlétisme en fauteuil roulant. Tout d'abord, je voudrais souligner la performance de Hugo Hull qui a terminé dimanche en 47e position du Tour de France. Le Tour de France, c'est la Coupe Stanley, le Super Bowl du vélo. C'est une course par étapes qui s'échelonne sur 3 semaines et qui couvre 3484 km à travers toute la France. Fait encore plus intéressant, il a terminé 7 fois dans le top 20, à chaque fois étant là lors des sprints finis. N'oubliez pas que chaque cycliste, comme Hugo, a un rôle à jouer pour son équipe. Chez Astana, l'équipe de Hull, il est un coéquipier de luxe, s'assurant d'amener le leader ou le sprinteur aux avant-postes lors du dernier kilomètre pour lui permettre d'espérer à la victoire. Lors de la 12e étape entre Chauvigny et Sarran-Corzeré, il a pris la 7e position. Tout un exploit. Maintenant que c'est terminé, il profitera de quelques jours de congé et se dirigera par la suite vers l'Italie où il participera au championnat du monde de cyclisme. Mardi dernier, RDS a diffusé le gala Sport Québec qui souligne la performance des sportifs québécois. Des artisans du parasport ont eu la vedette. J'ai rencontré plus tôt Aurélie Rivard et Marc-Antoine Ducharme qui ont chacun remporté un prix. Aurélie qui a remporté 2 médailles d'or au championnat du monde de paranatation en 2019 a gagné le Maurice de l'athlète féminine de l'année au niveau international. Félicitations Aurélie.
Merci.
Ce trophée représente une récompense pour une belle année en 2019. Maintenant qu'on est en 2020 avec le recul, comment tu vois tes performances au championnat du monde?
Ben, en fait, ça a été une belle surprise pour les championnats du monde. Ça a été des performances, très mixtes, là. Il y a eu des bons coups, des moins bons. Puis, quand j'ai reçu l'appel pour du Gala Sport Québec, ça a été une surprise. Puis, j'étais très contente, en fait, d'avoir été capable de remporter ça au Québec après avoir défendu mes titres.
C'était comment de recevoir ce titre-là à partir de ton salon?
Ben, c'était spécial. Je veux dire, j'ai reçu l'appel comme quoi que je gagnais pendant que je m'entraînais au gym. Après ça, j'ai fait le tournage 1 mois plus tard, seul aussi. Personne ne le savait. Puis je l'ai écouté à la télévision. Donc, c'est pas la même chose. Je veux dire, la reconnaissance est là quand même. Là, je veux dire... ça a été quand même parfait, mais les gars, là, c'est sûr que c'est le fun. Là. Ça manquait un peu d'ambiance, disons.
C'est la deuxième fois que tu gagnes ce prix-là. Tu l'avais gagné en 2017. Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre?
Ben, les deux sont différents. Je veux dire, en 2017, j'avais gagné après mes performances à Rio. Rio qui a été l'année, la compétition de ma vie. Là, donc, ça a été le cherry on top. Par contre, je devais le partager avec quelqu'un d'autre, donc ça a été un peu plate, mais là, cette année, c'est la première fois que j'ai gagné à moi tout seul pour mes performances qui sont hors en Olympique, ce qui est assez rare pour les athlètes paras. Donc, je te dirais que je sais pas lequel qui est le plus le fun, mais je te dirais que je suis bien contente d'en avoir un cette année. Je veux dire, pour une compétition contre les filles. T'sais, on était comme tout égal, c'était une année hors olympique pour tout le monde, donc c'était plus spécial.
T'es la première athlète paralympique, autre que Chantal Petitclerc, à gagner plus d'une fois. Elle l'a gagné 3 fois, je crois. Est-ce que tu te sens comme un peu plus maintenant la nouvelle vedette du monde paralympique qu'au Québec, au Canada?
Ben, je me sens pas comme ça. Mais honnêtement, je trouve ça quand même spécial. Moi, Chantal, je la voyais comme quand j'étais plus jeune, comme la plus grande athlète. Je l'ai rencontrée quand j'avais comme 7 ans. Puis là, de suivre ses traces, je trouve ça assez spécial. C'est sûr que je me réveille pas le matin en me disant ça, mais je me trouve très chanceuse. Je trouve que c'est un honneur parce qu'elle a fait tellement pour le mouvement. Puis c'est sûr que j'aspire à faire la même chose, pas la même chose, mais à suivre ses traces.
Est-ce que tu sens qu'il y a un petit peu plus de pression maintenant qu'avec la reconnaissance? Comment on apprend à gérer avec ça?
Ben, en fait, moi, je m'en mets pas sur le dos. J'en ai déjà assez. Je suis au courant qu'il y en a de moi-même, de l'extérieur aussi. Donc, en fait, je prends le prix vraiment plus comme une motivation positive qu'une pression sur mes épaules. J'en ai déjà assez, comme j'ai dit. Puis, je sais que ça me servira à rien de voir ça comme quelque chose de stressant. Je trouve ça plus le fun. Je vois ça plus comme une reconnaissance de l'année précédente. Donc, ça veut rien dire pour l'année qui suit. Et non, je vais juste apprécier honnêtement le prix.
Donc, maintenant, 2020, là, 2019 est terminé. 2020 était supposé être l'année de Tokyo avec plein de médailles, mais ça, maintenant, tout est sur pause. Comment ça va? Comment ça va l'entraînement?
Ça va, l'entraînement va, mais je te dirais que c'est une année spéciale, bizarre, difficile. C'est comme en ce moment, on se présente à la piscine, puis on ne sait pas si ça va être la dernière fois. Donc, on vient juste de recommencer la saison. Je veux dire, ça a été difficile le retour après 4 mois de congé. Puis encore là, je veux dire, physiquement, c'est un peu plus facile. Je recommence à retrouver la forme, mais le calendrier est encore suspendu, donc on sait pas vraiment pourquoi on s'entraîne. On sait pas si on va se faire sortir de l'eau bientôt. On sait comme il y a beaucoup de messages contradictoires dans les nouvelles, donc on essaie de faire abstraction de tout ça, mais c'est pas facile.
Quels sont tes objectifs pour les prochains mois?
Honnêtement, c'est juste d'y aller une journée à la fois, là. C'est de ne pas voir ça trop gros. T'sais, les jeux sont pas encore coulés dans le béton. C'est d'essayer de ne pas penser à ça. Essayer vraiment de focusser sur les choses que je peux contrôler. En ce moment, on n'a aucune compétition cédulée avant le mois de mai. On en a peut-être une en décembre, mais qui est très, très pas sûre, là. Donc, ça ne sert à rien de voir trop loin. Pour les prochains mois, moi, mon seul défi ou ma seule préoccupation, c'est de retrouver la forme que j'avais au mois de mars et que j'ai perdue durant la quarantaine.
Est-ce que tu rêves au moment où est-ce que tu vas embarquer dans l'avion pour Tokyo?
Oui, j'ai hâte d'être dans l'avion pour Tokyo en sachant que je veux dire, les Jeux vont se dérouler comme prévu, qu'il n'y aura pas trop de changements, puis que ça va être une expérience non stressante à cause des facteurs qu'on peut pas contrôler, mais excitante comme toutes les autres années. On sait pas encore. Je pense qu'on sait qu'ils vont avoir lieu. On sait pas si le Canada va nous envoyer. Donc, j'ai hâte d'avoir la confirmation de ce que je fais, là, de tout ce qui va se passer.
Merci beaucoup Aurélie, puis d'ici ce temps-là, bonne chance.
Merci.
Alors, Marc-Antoine a remporté le Moriste pour l'entraîneur de l'année en sport collectif. Il a mené l'équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant féminine à une médaille d'or lors des Jeux parapanaméricains à Lima en 2019. Ça a confirmé la place du Canada pour Tokyo. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour Dominique, ça va bien?
Oui, merci, merci. Comment on sent d'être connu par le monde du sport au Québec pour son travail?
Ben c'est toujours plaisant. On fait pas ça au début pour de la reconnaissance, mais ça fait un petit velours.
C'était un match assez enlevant contre les Américaines. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de le match, comment ça s'est déroulé?
Oui, dans le fond, on tirait de l'arrière tout le long du match. On a commencé à prendre les devants. Il restait peut-être environ 2 minutes. Et puis, les filles ont joué un super beau quatrième quart. Ils ont resté avec le sang-froid. Puis même sur le dernier jeu du match, on venait juste par trois. On a fait une super bonne défense pour terminer le match aussi. Donc, c'était vraiment plaisant, surtout de jouer contre les Américaines. C'est la première fois qu'on les battait là, dans un tournoi d'envergure depuis très longtemps. Et puis, en plus, ça nous qualifiait là, pour les Jeux paralympiques de Tokyo.
Donc, vous avez gagné avec un match serré. C'est quoi, dans un match d'équipe, quel est le travail de l'entraîneur dans les dernières secondes d'un match comme ça?
Mais c'est juste c'est de s'assurer qu'il reste calme parce qu'on s'entraînait, ça faisait 2, 3 ans qu'on s'entraînait pour notre qualification pour Tokyo. Donc, il savait déjà qu'est-ce qu'il fallait faire. On a pratiqué tous les scénarios en pratique déjà ultérieurement. Donc, c'est juste de rester calme puis de leur dire que ça va bien aller, ils savent quoi faire. Je leur fais confiance. Je suis un entraîneur qui fait super confiance aux athlètes. Donc, je leur laisse la manœuvre de jeu, je peux dire, sur le terrain. Ils peuvent prendre leurs propres décisions. Fait que c'est juste de calmer puis s'assurer qu'ils savent par combien qu'ils mènent, combien de temps qu'ils restent, est-ce qu'ils ont le droit de prendre des fautes ou pas. C'est juste de tout leur rappeler ces petites consignes-là. Puis après ça, mais c'est eux qui jouent sur le terrain.
Toi, à l'intérieur de toi, est-ce que tu es un entraîneur calme? À l'intérieur, je sais que tu ne le montres pas sur le terrain, mais à l'intérieur, est-ce que tu es calme?
Oui, à l'intérieur, je suis très, très calme. Je pense que je suis encore plus calme comme joueur que comme entraîneur. Entraîneur, comme je t'ai dit, on a moins de contrôle. C'est les joueurs sur le terrain qui ont le contrôle. Fait qu'on, je suis quand même calme, mais le stress est assez élevé.
Ça fait longtemps que tu es entraîneur. Cette médaille-là, ou cette performance-là, se place où dans ta carrière d'entraîneur?
C'est sûr que ça se place en haut de la liste. C'est ça. J'ai déjà eu des victoires aux Jeux du Canada comme entraîneur-chef. On a à Coupe des Amériques aussi là, 2 ans. On avait battu aussi les Américaines pour se qualifier pour le championnat du monde, mais c'était pas l'équipe A, l'équipe américaine. C'est pas l'équipe de qui se préparait pour les Jeux de Tokyo. Il y avait plusieurs filles qui avaient pris une année sabbatique. Donc, la victoire là, de l'année passée, là, c'est vraiment top 1. C'était sensiblement là, la même équipe qui a gagné la médaille d'or aux Jeux paralympiques en 2016. Donc c'était très, très, très émouvant.
C'est ta troisième année comme entraîneur de l'équipe nationale féminine. Tu trouves que l'équipe nationale est en bonne position là, dans le développement de l'équipe?
Est en très, très bonne position. Quand j'ai pris l'équipe en 2017, 6 joueuses avaient pris leur retraite des Jeux de Rio. Donc, c'est une équipe qui était très, très jeune, peu de vétérans. Ma seule vétérane sur le 5 partant, c'était Sydney. Toutes les autres, c'était des joueuses qui étaient sur l'équipe. Il y avait 6 joueuses qui étaient déjà sur l'équipe avant, mais les 5 autres, ce n'était pas des partantes. Donc, c'était des joueuses de soutien. Donc, c'était une tout jeune équipe. Mais leur progrès là, dans les 3 dernières années là, a été fulgurant. Puis, il y a encore place là, en progrès dans les 4-5 premiers. Cette équipe-là est faite pour être à leur plein potentiel là, pour les Jeux de Paris en 2024. Donc, encore beaucoup de place pour l'amélioration, mais le progrès est déjà énorme.
Donc, on pourrait s'attendre à de belles choses pour Tokyo.
C'est ce qu'on espère. Il faut jouer les matchs, mais si on regarde l'été passé, on a réussi à battre l'équipe championne du monde, on a battu l'équipe championne paralympique, puis on a battu aussi l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui avaient fini deuxième et troisième au championnat du monde. De façon régulière. Donc, on est en bonne position.
Comme tu as dit, faut jouer des matchs. La pandémie a mis un peu tout sur pause. Comment on s'y prend pour entraîner une équipe? C'est dur de préparer un press ou une sortie de zone sur Zoom, là.
Oui, c'est pas évident. Pour tout ce qui est des éléments tactiques, on utilise plus la vidéo, là. Ils font des analyses vidéo, je leur donne des petits devoirs, il faut qu'ils regardent les autres équipes jouer. Donc, tout ce qui est tactique, c'est un peu plus analyse vidéo. Puis sinon, mais tout ce qui est technique, physique, ça, par Zoom, puis en entraînement individuel, on peut pallier à ça. Donc, le côté tactique, comme je dis, on le pallie avec des séances vidéo, là, puis de l'analyse des autres équipes, puis de notre équipe.
Donc, le travail d'entraîneur de basketball en football, ce travail à temps plein, ta semaine en temps de pandémie, il ressemble à quoi?
Là, présentement, j'ai pas encore le droit d'aller à Toronto. J'aurai le droit d'y aller à partir d'octobre. Donc, je fais des pratiques Zoom de 7h30 à 10h30. Donc, on a 3 heures de pratique le matin pour ceux qui sont à Toronto. Ensuite, je fais des suivis individuels à toutes les semaines avec les filles, des séances vidéo. Quelquefois, je peux faire des séances vidéo aussi avec d'autres filles qui sont ailleurs au Canada, qui sont pas à Toronto. Comme cet après-midi, j'ai une séance vidéo avec une de mes filles qui est au Nouveau-Brunswick. On les suit par séance vidéo, à beaucoup d'analyses vidéo, puis il y a beaucoup aussi de préparation de pratique, puis préparation pour le futur.
Les matchs vont recommencer quand?
On espère. Notre premier tournoi international, là, il est prévu pour février. Donc, il n'y a aucun tournoi international prévu avant février. Sinon, au Canada, là, on espère commencer des matchs le milieu octobre.
Puis pour terminer, la classification au cours des derniers mois était un sujet très important pour dans le monde du basketball en fauteuil roulant. Il y a 5 joueuses de l'équipe canadienne qui voyaient leur statut revisité. Vous avez été chanceux. Il n'y a aucune joueuse qui a été mise non éligible pour Tokyo. Est-ce que ça a été difficile pour l'équipe?
Ça a été très difficile. Puis surtout que les dates ont toujours été repoussées à cause du COVID. On était supposé avoir nos réponses le 1er mai. Après ça a été poussé au mois de juin. Après ça a été poussé au mois de juillet. Donc, les filles s'attendaient à une réponse positive. Bon, c'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on prévoyait. Mais c'est surtout l'attente, là. C'est de toujours être en attente, de ne pas savoir ce qui s'en vient, de ne pas savoir si c'est éligible. Donc, c'est ça qui est plus été dur sur la morale. Si on aurait su dès le 1er mai, les filles s'attendaient à ça. Fait que si on aurait su dès le 1er mai, oui ou non, ça aurait été un été beaucoup plus facile psychologiquement. Mais comme ça a toujours été repoussé, ça n'a pas été évident.
Donc, c'est toutes les questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc-Antoine, et bonne chance pour le futur.
Et merci beaucoup.
On vient tout juste de parler de basketball en fauteuil roulant avant la musique. Si vous êtes moindrement un amateur de sport-spectacle, vous devriez la reconnaître. Il s'agit de la chanson thème des Harlem Globetrotters, qui probablement jusqu'au début des années 90, était l'équipe de basketball la plus populaire au monde. Notre chroniqueur Yvan Deslauriers est avec nous pour en parler. Bonjour Yvan, ça va bien?
Bonjour Dominique, oui, ça va très bien, merci.
Les Harlem Globetrotters, ça existe depuis longtemps. Comment ça a commencé?
Ah, mon Dieu, ça a commencé en 1926. Et là, essayez de me suivre parce que ça s'appelle les Harlem Globetrotters, mais ça n'a pas rapport ni avec Harlem, ni avec les Globetrotters. Alors, je vous explique. Ça débute en 1926 à Chicago, dans la Negro American Legion, ou la Légion américaine des Noirs. Et ils deviennent professionnels sous le nom du All Black Savoy Big Five. Donc, c'est une équipe de 5 personnes qui jouent dans l'hôtel Savoy à Chicago. D'ailleurs, après leur match, les gens qui étaient dans les estrades, ils descendaient sur le terrain parce que c'était une salle de bal, alors ils dansaient. Ça faisait partie des activités de l'hôtel. L'année suivante, en 1927, Abe Sieberstein acquiert le club et il le rebaptise les Harlem Globetrotters. Harlem parce que c'était des joueurs noirs et déjà le quartier de Harlem dans la ville de New York était identifié à la population noire. Et Globetrotters parce que M. Saperstein pensait déjà que cette équipe-là pourrait aller jouer ailleurs qu'à Chicago. Et dans les faits, ils ont joué dans les États autour. Ils ont joué en Illinois, évidemment, l'État de Chicago, mais ils ont joué aussi au Wisconsin et dans les États environnants. Alors, le Globetrotters a été pas mal limité dans les premières années.
Les
Et, oui.
La NBA a commencé quelques années plus tard. Il y a eu d'autres équipes professionnelles par la suite. Ça a été quoi la relation entre la NBA et les Harlem Globetrotters?
En fait, les Harlem Globetrotters ont quand même été une équipe qui a inculqué beaucoup de changements dans le monde du sport. Notons qu'au départ, quand ils ont commencé au baseball, la Negro National League commençait ses activités. Ils ont commencé en 1920. Et le joueur qu'on connaît le plus à Montréal, Jackie Robinson, va devenir le premier joueur de baseball noir à s'aligner avec une équipe de la Ligue nationale de baseball, les Dodgers de Brooklyn, le 15 avril 1947. Alors, n'oublions pas que les Harlem Globetrotters ont commencé en 1927, donc 20 ans plus tôt. Au football, Kenny Washington, c'est le premier joueur à jouer dans la NFL avec les Rams de Los Angeles, et ça, c'est en 1946, donc 19 ans après la création des Harlem Globetrotters. Au hockey, qu'on connaît mieux ici, c'est Willie O'Ree qui se joint aux Bruins de Boston en 1958. Et souvenons-nous aussi que lors des Jeux olympiques de 1936 à Berlin, c'est Jesse Owens qui est en vedette au grand désarroi de toute la population allemande. Et finalement, le discours de Martin Luther King, le fameux discours « I have a dream », va avoir lieu le 28 août 1963. Donc, en 1926, on est très loin de l'entrée des Noirs dans le sport majeur. À l'origine, les Globetrotters ont un niveau tout à fait compétitif. Ils concluent l'année 1934, celle de leur millième match, avec un bilan de 152 victoires et 2 défaites.
C'est assez impressionnant.
Pas mal, hein? Il n'y a pas grand monde qui pouvait leur toucher, quoique ils ne jouaient pas encore contre les grosses équipes, en guillemets, blanches. En 1939, ils participent à leur premier tournoi professionnel aux États-Unis. Ça s'appelait le World Professional Basketball Tournament, où il y a plusieurs grandes équipes de l'époque qui participaient. Ils ont été défaits par les Renaissance de New York, les Rens de New York, qui étaient, elles aussi, une équipe composée de joueurs noirs. Mais l'année suivante, ils ont gagné ce tournoi-là. Et ils ont commencé aussi à afficher ce qui est devenu leur couleur un peu, c'est de faire toutes sortes de clowneries, toutes sortes de trucs avec le ballon, avec les passes. Et leur président les autorise même à condition que l'avance au tableau d'affichage le leur permette.
Okay.
Alors, tu parlais tantôt, Dominique, de la NBA. C'est les Harlem Globetrotters qui ont apporté de la couleur au jeu du basketball. C'est eux autres qui ont introduit et populariser les slam dunks. Et on sait maintenant que dans les matchs des étoiles, il y a des concours de slam dunks. La relance rapide, les fast breaks, les passes en forme de 8 où tous les joueurs sont impliqués, ça vient tous du Harlem Globetrotters.
Et puis, il y a des joueurs quand même assez populaires des années 50, des années 60 qui ont joué pour les Harlem Globetrotters.
Il y a des très grands joueurs qui ont joué. Notons particulièrement Will Chamberlain. Lui, il avait 7 pieds 1 pouce. Il a signé en 1958 un contrat de 50 000 $ avec les Globetrotters. Là, imaginez-vous qu'en 1958, moi j'avais 2 ans à l'époque, avoir un contrat de 50 000 $ ça devait être extraordinaire. Il venait de faire un séjour junior avec l'Université du Kansas et il a joué un an seulement avec les Globetrotters, mais il dit souvent que ça a été l'année la plus agréable de sa carrière. Ça lui a permis, entre autres, de faire partie de la tournée historique en URSS en 1959, où il a même serré la main au président de l'époque, Nikita Khrushchev. Il a été le premier joueur des Globetrotters à voir son numéro retiré.
Maintenant, dans les années 60, les années 70, ça s'est transformé un petit peu, les Harlem Globetrotters.
Oui, bien maintenant, ils font des tournées un peu partout à travers le monde. Et puis, ils avaient une équipe faire-valoir qui s'appelait les Generals de Washington jusqu'en 2015. Les pauvres Generals, qui étaient, semble-t-il, une bonne équipe quand même, mais évidemment, c'était pour le spectacle, ils auraient perdu 16 000 matchs aux mains des Harlem Globetrotters. Il aurait gagné 3 fois.
Puis nous, on se plaint quand les Canadiens... on se plaint quand les Canadiens perdent 5 matchs de suite.
C'est
pas la même chose pantoute, hein?
Non, mais il faut dire, je sais pas, Dominique, si vous êtes déjà allé à un match des Harlem Globetrotters.
Oui, je suis allé une fois, c'était vraiment impressionnant comme
C'est
rencontre.
C'est un spectacle, effectivement. Puis il y a des trucs qu'on sait d'avance que ça va arriver. Par exemple, quand un des joueurs des Harlem Globetrotters prend une chaudière et la lance dans la foule, mais ce sont des confettis, puis tout le monde a peur que ça soit plein d'eau. Les arbitres sont complètement achetés pour... Toutes les décisions vont vers les Harlem Globetrotters. Alors, pour jouer pour les Generals de Washington, il fallait avoir la couenne dure parce que c'est sûr qu'on allait perdre. C'était des faire-valoir, vraiment comme dans un spectacle humoristique.
Donc, c'est vraiment du sport-spectacle.
C'est vraiment du sport-spectacle, mais par contre, ils ont changé vraiment beaucoup de choses. Ils ont introduit... C'est grâce à eux que les Noirs ont pu commencer à jouer pleinement dans la NBA. C'est grâce à eux aussi que les femmes noires ont aussi... Faites leur place, parce que il y a une femme noire qui s'appelle Lynette Woodward, qui était championne olympique aux Jeux olympiques de 84. Elle a fait partie en 85 des Harlem Globetrotters. Et on sait qu'aux États-Unis, la ligue de basketball des femmes est quand même très, très bien organisée. Donc, ils ont été à la base de plusieurs changements sociaux au niveau de la race, au niveau du genre.
Yeah.
Ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, parce que on vient de vivre des moments assez assez durs dans les derniers mois.
En 30 secondes à peu près.
Oui, avec et puis on est revenu souvent avec Black Lives Matter. Les Harlem Globetrotters n'ont pas pris position par rapport à cette question-là, mais c'est des athlètes noirs dans différents secteurs de l'activité qui l'ont fait pour eux, grâce à eux, parce que c'est eux qui ont ouvert les portes.
Merci beaucoup, Yvan. C'est très intéressant. On s'en va à la pause et on revient avec... On va parler de la NBA.
Welcome to the halftime show. We'll be right back.
Alors, on vient d'entendre la chanson Jump de Van Halen. C'était une chanson en spectacle. Et pour la continuer, on va dans le monde du basketball, on va parler avec Charles Dubébret. Because I wanted to be like Mike, right? I wanted to be him. I wanted to be that guy. I wanted to touch the rim. I wanted to be cool. And I wanted to fit in. I wanted what he had. America, it begins. Les demi-finales de la NBA ont débuté il y a une semaine et on devrait connaître les finalistes d'ici quelques jours. Les Raptors de Toronto ont été éliminés en quart de finale contre les Celtics de Boston. Les Raptors sont les champions en titre et sont devenus l'équipe de tout un pays l'an dernier. Oui, The North est devenu le cri de ralliement qui illustre la popularité du basketball au Canada. Charles Dubébret est l'un des rares Québécois à tirer son épingle du jeu sur la scène internationale en tant qu'entraîneur. Cette année, il a complété sa deuxième année comme assistant-entraîneur des Raptors 905, le club-école de l'équipe torontoise. Il est avec nous pour en parler de son parcours. Bonjour Charles, tu es originaire de Québec. Le basketball est de plus en plus populaire depuis Michael Jordan et la venue du succès des Raptors. Comment es-tu devenu d'un joueur collégial à un entraîneur?
C'est un long parcours. Je pense qu'il était à la base juste basé sur ma passion. J'étais joueur, comme tu dis, au niveau collégial. Puis j'aurais peut-être pu jouer universitaire, mais il reste que j'aurais pas fait une grande carrière de ça. Et puis j'avais l'intérêt d'enseigner, de transmettre mes connaissances avec un certain sens pédagogique, même quand j'étais joueur. Donc de devenir entraîneur, c'était la progression naturelle pour moi. Puis au tout début, ça a été plus comme hobby, mais très rapidement, je me suis rendu compte que je voulais faire de ça mon métier, que c'était pas un chemin qui allait nécessairement être facile, qui allait nécessiter beaucoup de sacrifices, probablement éventuellement de m'expatrier à l'étranger, chose que j'ai faite. Donc, ça a été un très long parcours qui m'a ramené au Canada presque 20 ans plus tard. mais ça a été vraiment un processus que j'ai beaucoup apprécié d'avoir à passer par les étapes que j'ai eues en France, en Chine, jusqu'à Toronto maintenant.
Donc, tu as commencé avec les Kebs de Québec, qui était une ligue professionnelle assez petite. Tu as passé plusieurs années en France, en Chine, puis la ligue estivale de la NBA. Est-ce qu'il y a une ligue, une ligne qui est conductrice dans ce cheminement-là?
Je dirais peut-être juste le fait de pas me fixer de limites, d'être quelqu'un qui a peur de pas grand-chose, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui est assez aventurier de nature, qui a envie de découvrir des nouvelles choses, de voir les différentes opportunités qui se présentent à moi comme étant des challenges, des façons de grandir, d'apprendre. Donc pour moi, de partir en France, je le voyais pas comme je m'en vais, je quitte le Québec, je me voyais plus comme quelqu'un qui allait arriver dans un nouveau milieu, puis devenir meilleur, relever ce défi-là, apprendre des choses sur moi, puis sur le basket en général aussi. Puis ça a été la même chose quand j'ai pris ma famille, puis j'ai déménagé en Chine. C'était le même processus dans ma tête, si on veut, c'était d'aller découvrir autre chose, d'utiliser cette opportunité-là pour devenir meilleur. Puis éventuellement, à force de travailler fort, parce que je pense pas que ces opportunités-là arrivent par hasard. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elles arrivent, c'est toujours un peu une surprise, mais il reste que c'est ton travail, puis le niveau que tu arrives à développer qui fait en sorte que les opportunités arrivent. Donc, à chaque fois que j'ai eu une opportunité, je l'ai saisie. Puis je savais jamais à ce moment-là quelle serait la prochaine opportunité, mais je suis toujours en train de travailler pour m'organiser pour qu'il y ait quelque chose suite au chapitre que je suis en train de vivre.
À quel moment tu t'es dit que peut-être que la NBA pourrait être possible?
Je n'ai jamais été à 100% focalisé là-dessus, mais il reste que c'est un rêve, un peu comme n'importe quel jeune sportif québécois. Quand j'étais jeune, on rêvait de jouer dans la Ligue nationale ou de gagner la Coupe Stanley. Puis éventuellement, moi, vers l'âge de 11-12 ans, je me suis tourné vers le basket. Donc, je transfère ce rêve-là vers la NBA. Puis assez rapidement, je me suis rendu compte que je n'avais pas les qualités, à tout le moins, au minimum, les qualités physiques que ça aurait pris pour m'y rendre. Donc, je me suis dit, peut-être comme entraîneur, c'est pas impossible de le faire. Donc, ça fait longtemps que je me dis, pourquoi pas moi? Puis ça ne veut pas dire que j'y arriverai un jour ou que j'y arriverai pas, mais je me suis pas fixé la limite moi-même. Je me suis dit, regarde, j'ai beaucoup de choses que j'aime faire à travers le coaching, à travers le basket. J'apprends à chaque étape. Et puis quand si un jour j'arrive à la NBA, ça sera un rêve d'accompli. Mais c'est pas la seule chose qui était sur ma tête depuis le début de mon coaching. C'est d'avoir du plaisir à travers le cheminement, pas juste quand on arrive à la destination, si on veut.
Comment l'opportunité avec les Raptors s'est présentée?
J'avais des contacts avec plusieurs équipes dans la NBA depuis un certain nombre d'années. On a eu la chance en 2013-2014 avec l'équipe où j'étais en France de disputer l'Euroleague, qui est la plus grosse compétition mondiale après la NBA. Donc on avait beaucoup de recruteurs NBA qui étaient à nos matchs, puis comme je maîtrisais bien la langue anglaise, ils se dirigeaient beaucoup vers moi après les matchs pour discuter puis parler de différents prospects. Donc je me suis fait plusieurs amis à travers la ligue, des connaissances, puis certains qui sont devenus des amis, disons, à travers plusieurs équipes. Puis l'un d'entre eux travaillait pour les Raptors de Toronto. On est toujours des très bons amis au jour d'aujourd'hui. Donc après mes années passées avec le programme étendu des Spurs de San Antonio, ça me donnait une certaine reconnaissance. Et puis eux, sachant que j'étais Canadien, avec cette personne-là qui a poussé un peu pour moi, puis qui a fait en sorte que quand il y a eu des opportunités qui sont ouvertes, j'ai été mis devant les bonnes personnes pour les rencontrer puis les convaincre de me prendre puis de m'amener à Toronto. Donc ça prend toujours les bons contacts, si on veut, d'une certaine façon, pour rentrer quelque part, mais en même temps, je pense que c'était un peu le fruit du travail que je faisais depuis très longtemps, qui a fait en sorte que les Raptors étaient intéressés à mon profil et ont réussi à m'intégrer au sein de l'organisation en 2018.
Il reste à peu près une minute. Quel est ton rôle avec eux?
C'est un rôle très large. Quand on est assistant coach, c'est surtout au niveau G League. Donc, on est responsable de préparation pour les matchs. On a un certain nombre d'adversaires qui sont notre responsabilité. On a du développement de joueurs. On a certains joueurs qui nous sont assignés, qu'on veut développer, faire du travail vidéo avec ces joueurs-là. Moi, j'avais un rôle spécifique aussi d'assister l'entraîneur sur la préparation des entraînements, donc de produire le plan d'entraînement pour chaque chaque pratique qu'on avait pendant la saison. différents projets extérieurs par rapport aux statistiques analytiques avancées aussi. Donc, vraiment un rôle assez vaste, assez large, en plus du travail qu'on fait sur le terrain, bien entendu, au quotidien, mais beaucoup de choses qui permettent de se développer comme entraîneur.
Merci beaucoup. Ça complète la première partie de notre entrevue. On continuera la conversation sur le balado pour parler des finales de la NBA qui se déroulent présentement. Pour l'instant, on continue l'émission. Mon prochain invité est Mathieu Paiement. Il est producteur d'émissions de télévision. Il est d'ailleurs derrière le documentaire « Les poussières de Daesh ». Mathieu et moi, on a travaillé ensemble sur l'émission « Sport sans limite » à Ami Télé. Il est un grand animateur de sport. Au début de la pandémie, les diffuseurs ont dit qu'avec le retour du sport à la télé, on allait voir des choses spéciales. Il y a eu de la publicité sur le terrain en MLS, des drones dans la Ligue nationale de hockey. Mathieu, bonjour. Mais toi, t'en pensais quoi de ce que t'as vu à la télé?
Ben d'abord, salut Dominique, je suis content de te parler. Écoute, j'en ai pensé quoi? D'une part, j'ai eu peur pendant un certain temps qu'on n'ait jamais le sport auquel on était habitué. Et je t'avoue que regarder des matchs des Padres de 1983, ça m'intéressait moyen.
Alors, je suis d'accord avec toi là-dessus.
Je suis content d'avoir vu du sport. J'ai pas été particulièrement, séduit par ce qui nous a été proposé comme amélioration ou changement. Mais par contre, j'ai pas non plus détesté le mode d'un match sans spectateur. Ce qui m'a quand même surpris, parce qu'a priori, tu t'attends à ce que l'ambiance participe au spectacle. Mais particulièrement au hockey, j'ai trouvé que d'entendre le jeu, d'entendre les patins, d'entendre les slapshots, les gars qui se crient après sa glace, même les arbitres qu'on entendait, ça a changé pour moi le spectacle. Et c'est pas le drone qui a pour moi changé le spectacle.
Non, c'est vrai que d'ailleurs, le drone a fait la manchette pour les radios au Québec. Ça a fait pas mal le tour. C'était très intéressant. Il y en a qui vont s'en souvenir.
Je me souviens très bien, oui, des mots un petit peu crus de Martin McGuire. Cela dit, à la limite, je le comprends parce que, en fait, pour lui, c'était une distraction. Puis pour moi, ça n'ajoutait pas tant au spectacle parce que le hockey, c'est un jeu qui se joue sur une petite surface. Et puis, contrairement au soccer, le jeu de position n'est pas si important. Et je pense que le drone aurait pu révéler un jeu de position dans un sport avec un grand terrain. Mais au hockey, à part le jeu de puissance, j'ai pas trouvé que ça ajoutait du tout au spectacle. Et en plus, si c'était une distraction pour les animateurs de radio, ben je les comprends d'avoir trouvé ça un peu futile, en fait, comme artifice.
Avec ton œil, de producteur d'en arrière de la caméra, y a-t-il des choses que tu dis « Ah, ouais, ça serait cool qu'on le réutilise? »
Ben, en fait, c'est étrange parce que, d'une part, c'est en regardant des clips sur Internet qui ne font pas partie du broadcast des matchs, mais j'ai trouvé deux trucs qui m'ont paru très intéressants et qui, je pense, sont liés au fait que les estrades sont vides. Le premier, c'était au soccer. Je regardais les meilleurs moments d'un match de Seattle, je pense. Et j'ai vu ce qu'on appelle en télé un traveling. Donc, un traveling, c'est quand la caméra roule sur des rails sur une certaine distance pour offrir un point de vue en mouvement, en fait. Et le terrain de soccer étant tellement grand, il y avait un traveling d'un bout à l'autre du terrain qui te permettait de suivre un joueur qui traversait le terrain avec le ballon. Et donc là, contrairement à un match ordinaire de soccer où le point de vue typique est à peu près au milieu du terrain, là, tu avais une vue, tu avais comme l'impression de progresser avec le joueur sur le terrain, ce que j'ai trouvé extraordinaire. Et je pense pas que tu aurais pu faire un traveling dans un stade avec une foule, parce qu'évidemment, à un moment donné, la caméra, ça renverse un spectateur qui est allé chercher un hot dog, ça va mal finir.
Oui.
Et l'autre chose, ça s'appelle True View, comme une vue réelle. C'était dans la NFL. C'est un peu un effet auquel on est habitué en écoutant le film La Matrice ou l'émission de danse à TVA qui s'appelle Révolution. C'est un grand nombre de caméras qui sont disposées en 360 autour du jeu, autour du terrain, qui permettent d'avoir un même jeu dans différents angles de vue, mais comme si on tournait autour du jeu sans qu'il y ait de coupure entre le passage d'une caméra à l'autre. Donc, tu as l'impression de voler autour du jeu et de tourner alentour du jeu, ce qui fait que tu peux voir le quart arrière faire sa passe de dos et voir la réception de passe de face sans qu'il n'y ait jamais de coupure ou de changement. Tu n'as pas l'impression qu'on a changé de caméra.
Un peu comme la 3D, un peu.
Ben oui, ça fait penser à... En fait, tu as besoin de ce genre de setup de caméra-là pour créer de la 3D. Et ce qui est fabuleux, et ce qui explique pourquoi c'est pas live dans la diffusion du sport, c'est que je pense que ça demande des calculs pour... En anglais, on dit stitcher, là, mais c'est coudre les images des multiples caméras ensemble pour donner l'impression qu'il n'y a pas de couture, en fait. Et je comprends que ça puisse pas être diffusé live pendant le show, mais si un jour on pouvait voir ça pendant une diffusion en direct d'un sport professionnel, ça gagnerait énormément en valeur à mes yeux parce que tu as l'impression d'être sur le terrain littéralement.
Tu as parlé plutôt des 100 spectateurs. Moi, je me disais sport-spectacle. Est-ce qu'on serait rendu à un point où on n'a pas vraiment besoin de spectateurs? Il reste à peu près une minute et demie, là.
Moi, je grand fan de soccer, je peux dire quelque chose. La valeur du support, pour le sport lui-même, la valeur du soutien des fans, pour moi, ça fait partie de la complexité du sport, dans le sens où un match à domicile au soccer, tu peux pas perdre ça parce que tu as toutes tes fans derrière toi. Au pire, tu vas annuler, mais tu ne veux pas perdre.
Il y en a d'ailleurs qui sont morts à cause de ça.
Ben oui, c'est ça. Donc, notre vengeance sera terrible si vous perdez sur notre propre terrain. Et je ne voudrais pas, pour la valeur du sport en tant que tel, pas pour le spectacle, mais pour la valeur du sport, perdre cette importante notion qui est le soutien de la foule, surtout pour une ville comme Montréal qui est reconnue pour soutenir son club, surtout au hockey, là, je parle pas de l'impact.
Oui, évidemment.
Des expos. mais donc, ça serait plate de perdre cet aspect-là, mais est-ce que j'y ai tant perdu à pas entendre la foule crier? Pas tant pour le spectacle, c'est vraiment pour le sport et la complexité psychologique, j'ai envie de dire. Tu sais, ça joue dans la tête des joueurs de savoir que tu joues devant tes propres fans ou si tu es à l'extérieur. Puis ça, je pense que c'est important. C'est important dans la psychologie sportive.
Merci beaucoup, Mathieu. Mais c'est malheureusement tout le temps qu'on a. On aurait pu en parler encore pendant des heures.
Oui,
on
oui,
s'en reprendra. Mais okay. Merci beaucoup, puis je te souhaite une bonne fin de journée.
Merci beaucoup, Dominique.
Bye-bye.
Bye.
La course en fauteuil roulant est un sport spécialisé. On a évidemment besoin d'une chaise roulante, mais pour faire de la course, elle est bien différente d'une chaise de tous les jours. On a aussi besoin de gants, d'un rouleau d'entraînement, d'ailleurs, c'est ce que vous avez entendu avant que je commence de parler, et plein d'autres choses. Je m'entretiens avec Alexandre Dupont, membre de l'équipe nationale de para-athlétisme et qui est aussi propriétaire de Révolution Sport. Bonjour Alexandre, comment ça va?
Bonjour, ça va bien, merci.
Alors, si je veux faire de la course en fauteuil roulant, est-ce que je peux aller m'acheter mon équipement chez Sport Expert comme si je le ferais si je voulais jouer au hockey?
Non, c'est pas mal plus compliqué que ça. c'est tout l'équipement qui est fabriqué sur mesure. Puis il y a quelques compagnies là, dans le monde qui en font. Quelques-unes que tu peux commander, ça en prend environ 3 mois à recevoir, et d'autres qu'il faut vraiment te déplacer et aller les voir directement là, dans leur pays respectif. C'est un petit peu plus compliqué qu'à aller au Sport Expert.
Toi, ton entreprise Révolution Sport, tu te spécialises dans quoi en particulier?
Ben, nous autres, on a commencé à fabriquer de l'équipement qui va accessoire l'entour de la course en fauteuil roulant. Puis, on a étendu nos services à pas mal toutes les, ben, pas mal, plusieurs sports paralympiques ainsi que récréatifs, mais toujours dans l'optique de l'handicap physique. Donc là, tout de suite, on fabrique les rouleaux d'entraînement, qui est l'équivalent, dans le fond, d'un tapis roulant, mais pour la course en fauteuil roulant. On fait beaucoup de modifications de fauteuils roulants de toutes sortes pour accommoder les utilisateurs. Comme vous avez dit, c'est très long, c'est pas facile de commander des nouveaux équipements. Donc, on a vu quand même une opportunité dans la modification de vieux équipements pour les rendre encore, leur donner une deuxième vie, pour raccourcir les temps d'attente puis aussi le coût d'acquisition de nouveaux équipements. Puis, dans le fond, on fabrique les gants, on fabrique des caisses de transport pour les équipements paralympiques sur les avions pour pas que ça se fasse maganer. Pas mal, beaucoup d'équipements, dans le fond, qui entourent tout ce qui est le sport paralympique.
Pourquoi tu as décidé de partir ton entreprise?
Ben moi, j'étais athlète. Quand j'ai commencé ma carrière d'athlète, j'ai vu qu'il y avait quand même un besoin assez fondamental d'équipement, plus de choix sur le marché. Il y avait beaucoup de choses où je trouvais que la qualité était pas vraiment là, surtout si on comparait avec le prix, que ça valait cher, puis on n'en avait pas pour notre argent, dans le fond. Puis moi, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi, mon père avait une petite machine shop, donc on était pas mal déjà dans ce domaine-là. Fait que c'est de là qu'elle a commencé l'idée. Puis, ouais, c'est pas mal ça.
Est-ce que tu as pris des cours pour ça ou c'est ça s'apprend sur le tas?
Pas mal appris sur le tas, là. Parce que donc, ici, là, on fait tellement d'affaires que j'aurais pas pu prendre un cours pour tout. On fait de la conception 3D, on fait de l'usinage, on fait de la peinture, on fait de la soudure, du pliage, un peu de tout, là. Donc, on a appris au fur et à mesure.
Tu es membre de l'équipe nationale, tu as participé à quelques Jeux paralympiques, d'ailleurs comme ta conjointe. Oui. Vous êtes donc vos propres clients, ça vous aide comment?
Bien, dans le fond, c'est qu'on peut tester nos affaires avant de les vendre. Je ne vendrai jamais quelque chose que je ne me sers pas. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens de plus difficiles que moi sur le marché. Donc, si ça ne passe pas mon test, je ne le vends pas. Puis c'est ça, ça nous permet vraiment de savoir ce qu'on fait, de s'aligner dans la conception. On skip beaucoup d'étapes, dans le sens qu'on n'a pas besoin d'en faire tester les utilisateurs. C'est moi et l'enfant qui l'utilise. Puis quand tout est beau, ben c'est là qu'on met à marcher.
Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière d'athlète une pièce d'équipement qui t'a donné une victoire puis ça a fait toute la différence? Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, dans le fond, donc tous mes petits ajustements, ça m'a toujours aidé. Mais si j'avais à parler d'une grosse pièce, ça a été vraiment la conception du gant de course que j'ai fabriqué en 2015. Il y avait déjà d'autres options sur le marché, mais pas rien qui était vraiment pour moi, en fait. Il y en a d'autres qui ça allait bien pour eux, mais pour moi, j'avais rien trouvé qui m'accommodait parfaitement. Puis j'ai conçu un nouveau gant pour me propulser dans ma chaise de course. Puis j'ai travaillé pas mal longtemps là-dessus, quelques mois, à faire la conception de la modélisation dans le fond, là, avec du plastique chaud, là, qu'on modèle ça un petit peu comme la pâte à modeler, mais bien chaud. Puis j'ai moulé longtemps. On a finalement trouvé un bon produit. Fait scanner ça, puis on s'est parti dans l'impression 3D de ces gants-là. Moi, la première fois que j'ai utilisé en course, ça a été au jeu du Commonwealth en 2018, puis j'ai gagné ma course. Donc, j'ai gagné les 1500 mètres en 2018 au Commonwealth, puis c'était pas une course que j'aurais dû gagner. J'étais définitivement pas un des favoris pour gagner ça, donc j'ai surpris bien du monde là.
Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer après ta carrière?
Oui, absolument. Absolument. C'est mon après-carrière.
Y a-t-il quelque chose que tu voudrais faire? Là, vous avez eu, mettons, la pandémie, il n'y a pas eu de compétition. Y a-t-il des choses que tu as mis à penser? Dans le futur, là, c'est quelque chose que je vais vouloir fabriquer?
Oui, mais dans le fond, tu sais, des idées, moi, ça n'a jamais été un problème de trouver des nouvelles idées. Ça m'a donné, dans le fond, c'est sûr que ça nous a pas mal ralenti la pandémie. Ça, comme dans bien des entreprises, ça nous a mis des bâtons dans les roues. Mais par contre, ça nous a donné du temps pour s'installer un petit peu mieux dans la shop. Dans le fond, ici, où est-ce qu'on conçoit nos affaires, on avait besoin on avait besoin de se réinstaller pour être capable de fournir plus rapidement les gens, parce qu'on avait quand même des temps d'attente un peu longs, donc on a essayé d'améliorer ça. Ça nous a permis de travailler là-dessus, puis on est en train de travailler présentement sur un assez gros projet d'un rouleau d'entraînement On en fabrique déjà, mais celui-ci va être électronique avec résistance variable. Puis les gens vont pouvoir avoir un meilleur contrôle sur les entraînements. Puis on s'est dit, surtout avec l'histoire de la pandémie puis du confinement, que ce soit vraiment quelque chose qu'on les gens soient capables de s'entraîner à la maison sécuritairement, mais avec un entraînement de qualité.
Donc, un tapis roulant genre high-tech, comme on les voit dans les gyms, là, pour que les gens qui font de la course, donc.
Exactement, exactement. Être capable d'offrir aux gens qui font la course en fauteuil roulant la même qualité d'équipement qu'on retrouve dans les autres sports.
Je te remercie beaucoup, Alexandre. Je vous souhaite un bon retour à la compétition. Le but, c'est de se rendre à Tokyo?
Oui, c'est sûr.
Merci beaucoup. Bonne chance, puis on va se reparler.
Merci beaucoup.
Donc, merci beaucoup à tous mes invités aujourd'hui. Ça met un terme à notre émission. Mon nom est Dominique Tremblay. Vous avez écouté On parle de sport. N'oubliez pas d'écouter la balado sur le site web. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Bye bye. Donc, bienvenue à la portion balado dont parle de sport. Je suis en compagnie de Charles Dubé-Bray, l'entraîneur des Raptors dans nos faves, pour parler des finales de la NBA. On est présentement en finale de conférence dans l'Est. Les Celtics de Boston affrontent le Heat de Miami. Charles, est-ce que c'est un peu surprenant pour toi, cet affrontement?
Ça l'est, pas parce que ces équipes-là ne méritent pas d'être là, au contraire, mais parce que toute l'année, on voyait un peu la dominance des Bucks de Milwaukee sur la conférence Est, puis sur toute la NBA aussi, pas seulement au niveau des victoires, mais ils avaient la meilleure défensive, la Ligue est d'assez loin. C'est une équipe qui avait un très, très gros différentiel de points pour et points encaissés, ce qui est souvent un bon indicateur de la force réelle d'une équipe. Donc, on s'attendait, puis avec la présence de Giannis Antetokounmpo, forcément, qui a gagné son deuxième titre de joueur par excellence. Donc, tous ces éléments-là faisaient en sorte que beaucoup de gens prévoyaient peut-être que c'était l'année du couronnement de Antetokounmpo, et que si c'était pas le cas, ben que quand même, on le verrait aller très loin et pas que leur parcours s'arrêterait en deuxième ronde. Les Raptors avaient surpris beaucoup de monde aussi en finissant deuxième, puis commençaient à être des vrais prétendants à défendre leur titre jusqu'au bout. Donc, beaucoup de gens attendaient Bucks Raptors. Finalement, ni un ni l'autre des deux favoris de l'Est ne s'est rendu, mais il reste que en termes de pur talent sur l'effectif complet, je pense que les Celtics sont peut-être la meilleure équipe de l'Est, parce que peu d'équipes peuvent dire que dans leur équipe, ils vont avoir des joueurs comme Kemba Walker, Jason Tatum, Jalen Brown, Gordon Hayward, Marcus Smart, etc. Donc, Boston a peut-être terminé troisième en saison, mais en termes de talent, ils sont meilleurs que ça. Et puis, le Heat a réussi à se réinventer pendant les séries avec une identité un petit peu différente, un effectif de départ un peu différent aussi. Puis ont vraiment beaucoup progressé dans les dernières semaines. Donc, un peu surprenant, mais c'est deux équipes qui méritent leur place absolument.
Les Raptors sont les champions défendants. Ils ont quand même perdu Kenny Leonard au début de la saison. On espérait qu'ils se rendent très loin. Ils ont peut-être un petit peu surpris, mais ils sont rendus jusqu'en septième match contre les Celtics. Ils ont manqué peut-être un peu de jus dans le dernier quart du septième match. Est-ce qu'il aurait pu répéter comme champion?
Je pense qu'on aurait pu. Je pense que c'est une année où c'était très ouvert, puis qu'il y a au moins, je dirais, 5 ou 6 équipes qui avaient leur chance. Les Lakers qu'on voit en ce moment dans l'Ouest, les Nuggets, c'est une très bonne équipe. Les Clippers qui ont été éliminés par les Nuggets, mais ça aussi, c'était une surprise. Dans l'Est, comme je disais, je parlais des Bucks récemment, qui auraient été un champion éventuel aussi. Puis les Raptors faisaient partie de cette liste-là. Chaque équipe, à mon avis, a, même celle qui gagnera, avait au moins une faiblesse relativement évidente, ce qui n'est pas toujours le cas dans les dernières années, surtout les années où les Warriors ont dominé la NBA. Pas beaucoup de faiblesses, très bons des deux côtés du terrain, donc c'était dur de les imaginer perdre, et c'est comme ça qu'ils ont quand même atteint 5 finales de suite, puis 3 championnats à travers ces années-là, mais cette année, aucune équipe avait cette description-là d'équipe quasi parfaite. Tout le monde avait un peu une faiblesse, puis les Raptors, de pas avoir Kawhi Leonard pour terminer les matchs, pour vraiment marquer les paniers difficiles quand on obtient rien de bon sur une possession offensive, c'est ça qui nous a manqué. C'était la faiblesse des Raptors. Ça a fini par nous coûter la victoire dans la série contre les Celtics. Ça aurait pu peut-être, avec un peu de chance, parce qu'il y a toujours un facteur chance dans le sport, avec un ou deux lancers en plus qui sont réussis, peut-être que l'histoire aurait été un peu différente. Mais on affrontait une très, très grosse équipe aussi des Celtics qui a mérité sa qualification. Puis on verra par la suite qui va aller jusqu'au bout.
Kyle Lowry, le meneur de jeu des Raptors, encore s'est très bien déroulé. Tu l'as côtoyé à Toronto. Quel genre de personne est-il?
Kyle, c'est un très, très gros compétiteur, joueur extrêmement, extrêmement intelligent, puis qui est prêt à faire tous les petits efforts pour gagner, qui est prêt à sacrifier son corps. Vraiment un joueur très exigeant envers lui-même et envers ceux qui travaillent avec lui aussi. Assez caractériel, forcément, il le démontre sur le terrain. Donc, tu as intérêt comme entraîneur à être prêt puis à connaître ce que tu fais quand tu veux interagir avec lui. Mais moi, pour les fois où j'ai participé à des entraînements individuels avec lui, il a vraiment été très, très sympathique avec moi, avec mes enfants quand il les a vus. Puis c'est vraiment, comme j'ai quelqu'un que j'admire beaucoup pour ce qu'il fait sur le terrain, parce qu'il fait vraiment toutes les petites choses, les petites nuances que pas tous les joueurs comprennent, mais lui va vraiment faire tous ces détails-là pour faire gagner son équipe. Donc, un très, très grand joueur, bien entendu, de l'histoire des Raptors, puis que je pense qu'il a maintenant mérité sa place au temple de la renommée du basket.
On va parler de la conférence de l'Ouest maintenant. Les Nuggets de Denver, comme tu l'as mentionné, ont éliminé les Clippers de Los Angeles, l'équipe de Leonard. Les Nuggets ont un joueur canadien qui est quand même assez bon. Ça démontre bien le talent du Canada de plus en plus sur la scène du basketball.
Oui, effectivement. Jamal Murray, c'est le meilleur joueur canadien, disons, depuis Steve Nash. On a aussi un très, très bon jeune joueur qui joue à Oklahoma City, du nom de Shai Gilgeous-Alexander, qui, ce ne serait pas surprenant de le voir au match des étoiles dans quelques années. C'est un joueur à très, très fort potentiel. Mais Jamal Murray, qui était justement l'un des plus gros prospects canadiens depuis un certain nombre d'années, qui a peut-être réussi à s'insérer là où Andrew Wiggins n'a pas réussi à le faire. Wiggins fait une carrière NBA correcte, mais pas à la hauteur du statut de premier choix au repêchage qu'il avait eu en 2015, ou 2014, pardon. Mais Jamal Murray, c'est vraiment un joueur très talentueux, qui a vraiment peaufiné son jeu depuis quelques années, puis qui élève son niveau de jeu en ce moment dans les séries. Donc oui, c'est vraiment agréable de le voir mettre le basketball canadien à l'avant encore plus, un peu comme les Raptors ont pu le faire au niveau collectif, au niveau d'une équipe, mais d'avoir des stars canadiennes dans la Ligue, c'est important. Puis on commence à avoir une grosse représentation de joueurs. Mais d'avoir un joueur comme Jamal Murray, forcément, qui mène le lot, c'est important aussi.
Le dimanche, les Lakers ont gagné le match, le dernier lancé. Anthony Davis a réussi un tir de 3 points à la dernière seconde. La conférence, la finale, c'est l'affaire des Lakers?
Ça serait de souffrir un peu d'amnésie basketballistique que de l'affirmer, parce que les Nuggets ont quand même remonté des déficits de 3-1 dans la première et la deuxième ronde. Donc, de compter les Nuggets pour vaincus en ce moment, ça serait de faire une grave erreur, à mon avis. Mais il reste que je pense que la meilleure équipe des deux, c'est les Lakers. Je pense pas que c'est une certitude qui gagne la série, mais je pense qu'il y a des fortes chances, parce que, mine de rien, la présence de LeBron James et Anthony Davis, c'est compliqué pour une équipe comme Denver, parce que leurs joueurs ont quand même des profils qui fêtent un peu moins bien avec ces joueurs-là que peut-être les Clippers, qui est une très forte équipe, mais les Clippers aussi avaient des problèmes majeurs à tenir Jokic particulièrement sous contrôle, parce que Jokic, ils n'ont pas un joueur de ce style-là, alors que les Lakers ont quand même Anthony Davis qui peut défendre très bien sur Jokic et LeBron James qui est quand même beaucoup plus costaud que Jamal Murray, donc vraiment un avantage physique marqué du côté des Lakers. Je pense que c'est peut-être aussi leur année aussi, vu au vu de ce qui est arrivé avec le décès de Kobe Bryant puis la mission dont il semble être un peu chargé. Donc, c'est encore un peu prématuré pour parler de tout ça, mais je pense quand même qu'on devrait voir les Lakers en finale, même si les Nuggets ont montré qu'il ne faut pas les compter pour vaincus trop tôt.
Puis, si tu me dis de placer un petit 2 sur le gagnant rapidement, pour la finale, tu me dirais quoi?
Un petit 2, c'est pas trop. Donc, je pense que je dirais les Lakers, honnêtement. Comme je dis, c'est quand même la seule équipe qui a deux des 6 ou 7 meilleurs joueurs de la NBA là, dans son équipe. Puis, j'ai envie de dire, probablement les deux meilleurs joueurs au total qui restent en ce moment dans les séries avec l'élimination de Kawhi Leonard puis Giannis Antetokounmpo. Donc, on parle de vraiment des deux meilleurs joueurs actifs en ce moment dans les 4 équipes qui sont en lice. Donc, oui, je mettrais l'avantage aux Lakers, même si je pense que Boston est l'équipe la plus forte à l'Est. C'est pas une certitude qu'ils vont battre Miami, mais s'ils se rendaient, ils ont la polyvalence puis la profondeur peut-être de joueurs offensifs pour pouvoir vraiment bien embêter les Lakers. Mais si c'est un petit 2, je dirais les Lakers. Je pense que c'est l'équipe la plus forte.
Je te remercie d'avoir pris du temps de nous parler aujourd'hui. Je te souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.
Merci à vous. À la prochaine, à vous autres aussi. Bonne fin de journée.